I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Suivre le fil de l'eau, c'est un, je dirais, un mantra régulier dans le domaine de l'astronomie et en particulier dans le domaine du système solaire où, depuis de nombreuses années, ce thème est utilisé à la fois pour la communication mais aussi pour la recherche. Nous allons en parler en votre compagnie. Olivier Grasset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur-chercheur et directeur adjoint du laboratoire de planétologie de l'Université de Nantes, laboratoire de planétologie et géodynamique, donc CNRS et Université. On dit plus simplement que vous êtes planétologue.
C'est juste. C'est ma discipline, ça reste l'étude des planètes.
L'étude des planètes, et en particulier de l'eau, et en ce qui vous concerne, des glaces. Alors, c'est vrai que quand on commence à regarder un petit peu dans la littérature, vulgariser tout simplement cette question d'eau, on se rend compte qu'elle est évidemment beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Qu'est-ce que c'est que l'eau, précisément? Vous en avez une définition claire, simple?
Non, j'ai pas de définition claire et simple, puisque comme vous venez de le dire, c'est un des corps les plus complexes qui soit. Si on fait très simple, on le sait tous, c'est un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, on les met ensemble.
H2O.
Voilà. La particularité de l'eau, c'est que cette molécule H2O, en fait, quand elle se combine, à cause du fait qu'il y a l'hydrogène partout, elle se combine de façon extraordinairement complexe. Ce qui fait que l'état liquide est en soi extrêmement complexe, parce qu'il est très difficile de faire de l'eau pure, il peut se combiner avec plein d'autres choses, donc l'eau est toujours avec autre chose, dans le système solaire en particulier, l'eau distillée ça n'existe pas. Quand on la regarde à l'état solide, c'est un des corps les plus complexes qui soit, parce que du coup de l'eau toute seule existe rien que dans des gammes de pression qu'on va trouver de façon standard, on va dire, dans le système solaire, elle va exister sous 10 formes cristallines différentes. Et encore plus si on va dans d'autres systèmes stellaires. Et quant à son état gazeux, alors lui, il est assez, pas toujours facile à trouver, mais bon, l'état gazeux est peut-être quelque part le plus simple à traiter, puisque là, la molécule est assez, assez isolée et assez libre, d'accord. Mais c'est un des corps les plus complexes qui soit, dans les différents éléments qu'on a.
Comment se fabrique l'eau? Où est-elle produite? Qui génère? Quelle est la source de l'eau?
Pour une question comme ça, il va falloir prévoir plusieurs heures d'interview, parce que je vous rappelle que c'est un des gros débats aujourd'hui, au moins pour ce qui concerne la Terre, de savoir quelle est l'origine de l'eau. Les gens qui connaissent un peu la chose savent qu'aujourd'hui, on a deux origines possibles sur l'eau terrestre. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a évidemment une contribution entre de l'eau qui viendrait de l'extérieur, c'est-à-dire tous nos réservoirs cométaires, entre autres, hein, où c'est d'abord de l'eau qui est là-bas, sous forme de glace, et puis une partie qui viendrait du dégazage de nos silicates, parce que l'eau, vous l'avez aussi dans les cailloux, sous forme qu'on appelle liée. Donc, à une question comme ça, il faudrait d'abord qu'on dise où est l'eau, enfin de quelle eau on parle et d'où et à quel moment.
Alors, je vais sans doute la spécifier. L'origine de la molécule d'eau, puisque on peut lire aussi dans la littérature qu'on trouve de l'eau, par exemple, dans l'atmosphère solaire.
L'origine de la molécule d'eau est pas différente, selon moi, de l'origine de toutes les molécules que vous trouvez dans le système solaire et au-delà. C'est-à-dire qu'à la base, on pourrait poser la même question, pourquoi vous trouvez de l'azote ou de l'oxygène dans le Soleil? Tous les éléments étaient là au départ dans notre nébuleuse primitive. La question de l'eau est de savoir à quel moment et dans quelles conditions les atomes ont pu se combiner ensemble pour faire la molécule elle-même qui n'est pas toujours très stable. Donc c'est vrai qu'il y a des conditions un peu particulières, mais son origine, enfin, je veux dire, trouver l'hydrogène et l'oxygène ensemble pour former la molécule eau, on la trouve, on peut la poser de la même façon pour l'eau et pour tous les autres éléments du système solaire. Après, on peut préciser, mais c'est quand même la base.
Alors, on va évidemment s'intéresser d'abord au système solaire, puisque c'est, je dirais, c'est la base des études sur lesquelles vous êtes depuis quelques années. Quand on regarde aujourd'hui le système solaire et notre position spécifique, on peut se dire que l'eau sur la Terre est très abondante. En fait, pas du tout comparativement aux autres planètes.
Vous avez raison. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants quand je fais un cours sur l'eau dans le système solaire. Je rappelle que d'abord et avant tout, la Terre, en proportion de masse, c'est 0,01% d'eau, et tout le reste, c'est du caillou et du fer. On a cette impression qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre, parce qu'elle est en surface. Et en fait, la particularité de la Terre, c'est pas d'avoir beaucoup d'eau, mais c'est qu'on puisse voir l'eau dans ses trois états, solide, liquide et gaz. Mais en fait, il y en a très très peu. Mais comme elle est en surface et que nous, humains, on vit en surface, on a l'impression qu'il y en a partout. Pour donner une comparaison, là où on va dire qu'il y a beaucoup d'eau, c'est dans le système externe, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Mars, à partir de Jupiter et au-delà, où si on oublie les planètes géantes, où cette eau, on ne la voit pas parce qu'il y a tellement de gaz autour, d'hydrogène et d'hélium, qu'on va avoir du mal, mais si on oublie les planètes géantes et qu'on regarde leurs lunes, les lunes, en proportion, pour la majorité d'entre elles, c'est la moitié d'eau et la moitié de cailloux, en masse. Donc quand on parle d'un corps qui va être aussi gros que Mercure, c'est le cas de Ganymède par exemple, lune de Jupiter, la lune Ganymède a 50% de glace, 50% de roche en termes de masse. Là, il y a de la flotte. Sur Terre, il n'y en a pas. Sur Mars, c'est la grosse différence, pour faire simple, entre les planètes telluriques et les planètes géantes et leurs environnements. En fait, on pense sur Terre qu'il y en a, parce qu'encore une fois, on l'envoie en surface, et c'est vrai qu'il y en a, heureusement pour nous, hein. Mais en proportion par rapport à d'autres zones du système solaire, c'est pratiquement rien.
Donc c'est aride autour du Soleil, hein, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis la Terre, encore une fois, est un cas à part. Hein. C'est quelque chose, bon, vous avez expliqué que c'était très complexe de savoir d'où venait l'eau qui est présente sur la Terre, mais quand même, il y a deux hypothèses. Soit elle est, je dirais, fabriquée par la Terre elle-même, émanation de l'eau existante dans les roches primitives, soit elle est apportée par l'extérieur. Aujourd'hui, de façon dominante, c'est quand même l'extérieur qui semble avoir de tenir la corde, comme on dit.
Oui, c'est vrai. Mais quand on regarde les rapports isotopiques de thérium sur hydrogène, on sait qu'on n'arrive pas à recoller exactement. Les données isotopiques de l'eau de mer ne sont pas du tout équivalentes aux données isotopiques des glaces cométaires. Donc on est sur, toujours comme souvent, hein, c'est ni un extrême ni l'autre, c'est quelque part entre les deux. Il y a forcément une contribution mitigée. Si étant, on est sûr aujourd'hui, c'est vrai, qu'il y a eu un apport extraterrestre, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Mais ce n'est pas 100% de l'eau terrestre. Là, ça ne colle pas, pour l'instant, avec les données isotopiques qu'on a sur quelques glaces cométaires.
Et ça pourrait être logiquement un mélange des deux.
Oui, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun antagonisme. De toute façon, il y a forcément du volcanisme. On sait que quand on regarde les compositions des gaz volcaniques, il y a une très très forte proportion de vapeur d'eau. Et dans les phases primordiales de l'histoire de la Terre, il est évident que les minéraux hydratés ont sans aucun doute évacué une partie de leur eau dans l'atmosphère terrestre. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est la proportion entre ces deux réservoirs, en quelque sorte, qui est encore sujet à controverse. Ceci étant, vous avez raison, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y a eu un apport extérieur.
Alors, vous connaissez bien les Américains pour travailler régulièrement avec eux. Vous voyez aussi l'extrême communication en direction de l'eau. Alors, l'eau sur la Lune, l'eau sur Mars, on a vu en particulier ces dernières années, hein, une tonne de communication sur « on a trouvé de l'eau sur la Lune ». Quel sens ça a pour un planétologue ?
Il faut toujours rappeler que la proportion d'eau qu'on a trouvée sur la Lune est inférieure en taux à ce que vous trouvez dans le désert d'Atacama. J'exagère à peine. Hein, c'est quelque part la toute-puissance médiatique de la NASA par rapport aux autres agences spatiales. Ils savent communiquer et rendre un événement certes intéressant, mais ceci étant pas surprenant pour un planétologue, absolument extraordinaire, là où en réalité on a trouvé un soupçon de givre sur une région hyper sèche, et ce qui n'a absolument rien d'anormal. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est de l'avoir vu. Le potentiel des instruments d'aujourd'hui à faire ce type d'observation, ça mérite d'être soulevé. Mais à la limite, c'est extraordinaire parce que justement, il y en a tellement peu qu'il fallait vraiment se donner les moyens pour le voir de cette façon-là. Donc la réponse à la question, oui, en tant que planétologue, ce genre de découverte, fort heureusement, ne nous surprend pas. Enfin, on est au courant un petit peu avant que ça se produise. Heureusement, quelque part, c'est notre métier. Ce qui est toujours étonnant, c'est encore une fois cette capacité qu'ils ont, nos collègues américains, à rendre un événement important et à diffuser l'information de façon, à mon avis, beaucoup plus efficace que ce qu'on sait faire dans les autres pays, on va dire, qui travaillent sur l'exploration spatiale.
Alors, à quoi, Olivier Grasset, sert de tirer le fil de l'eau, si je puis dire? Pourquoi suivre cette piste de l'eau? Qu'est-ce que cela nous apprend à la fois sur nous-mêmes, sur la formation du système solaire? Et je dirais, quelle est la stratégie qui est adoptée par les équipes, par vous-même, par votre laboratoire, Est-ce que c'est aller regarder du côté de Mars, Jupiter, Saturne? Pourquoi finalement? Quelle est la nature, je dirais, fondamentale de la recherche dans ce domaine?
En fait, un laboratoire comme le nôtre, puisqu'on parle de Nantes, n'est pas spécialisé sur l'eau au départ. Par contre, l'eau est partout. Sous forme de traces ou sous forme relativement modeste ou fossile, enfin, il y a des traces d'eau fossile sur Mars, etc. Sous forme extrêmement abondante, on l'a dit, dans le système externe. Donc, en tant que planétologue, si on s'intéresse aux planètes du système solaire, à un moment ou à un autre, on est confronté à l'eau. A commencé d'ailleurs par notre propre planète Terre, qui est toujours, on fait de la planétologie comparée, la Terre est un élément important des études. Donc à un moment donné, dans notre approche, on doit considérer l'élément eau comme important, parce qu'on le voit, parce qu'on en voit, on voit des évidences qu'il a été là à un moment donné, parce qu'il est partout quand on va voir les lunes, parce qu'on doit le comprendre pour faire des modèles de structure, parce qu'il agit sur les roches, mais on n'est pas focalisé sur l'eau elle-même, simplement comme elle est partout, tous les gens qui travaillent chez nous, à un moment donné, doivent considérer cet élément dans leur travail. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
Avec la question exobiologique, peut-être derrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que sans eau, qui est sans doute le meilleur diluant, ou en tout cas le meilleur support à la circulation d'autres éléments, sans eau, il n'y a pas la vie.
Donc, forcément, à un moment donné, on arrive à ça. Et ma première réponse a été justement pour dire que c'est pas le leitmotiv d'un laboratoire comme celui de Nantes, qui est constitué d'abord de géologues et de spécialistes des structures internes et de champs magnétiques et de choses comme ça. Mais c'est vrai que, bien entendu, si l'eau est si populaire, on va dire, c'est d'abord et avant tout parce que sans elle, à notre connaissance, il n'y a pas de vie. Or, dès qu'on détecte un peu d'eau, ou des traces d'eau fossile dans le cas de Mars, ou qu'on sait qu'on commence à penser qu'il y a des océans dans les lunes de Jupiter, etc., ça motive énormément la recherche dans ces domaines-là, parce qu'on se dit, tout le monde le sait, l'exploration martienne, si on n'avait pas découvert d'anciennes zones où l'eau a pu passer, si on n'avait pas à un moment donné commencé à observer ces zones de rivage possibles qui peuvent laisser penser certains qu'il y a eu un océan à un moment donné, bon, s'il n'y avait pas tout ça, si c'était Mercure, ça n'aurait pas le même intérêt, d'accord, c'est évident. Mais c'est pas, encore une fois, d'abord les gens travaillent avec l'eau parce qu'on sait qu'elle est là et on doit traiter avec ça. Franchir ce pas de considérer l'eau comme un élément de l'étude à celui de dire mon travail se focalise sur l'exobiologie parce qu'il y a eu de l'eau, donc il y a eu de la vie, c'est un pas qu'il faut franchir qui n'est pas systématique et automatique. Et on peut toujours, je me bats souvent pour le dire, on peut travailler sur les corps du système solaire sans nécessairement avoir comme objectif de trouver de la vie.
La concurrence est rude, effectivement, dans ce domaine.
Oui, c'est normal, parce que c'est vrai que d'un point de vue purement médiatique, on y revient toujours, il est beaucoup plus excitant de se dire qu'on va explorer un nouveau monde parce qu'il y a peut-être eu de la vie ou qu'il y a un potentiel évident, que d'aller dire qu'on va étudier son champ magnétique. J'ai rien contre les champs magnétiques, mais c'est plus difficile à vendre.
Oui, absolument.
Il faut être très clair.
Mais il part des missions quand même. Et effectivement, vous faites partie d'une génération qui a vu une première exploration du système solaire avec des sondes comme Voyager, Galileo, Cassini, etc., dont certaines continuent à envoyer des informations aujourd'hui de façon très importante. Vous travaillez sur le système jupitérien, et en particulier sur une mission dont nous allons parler, qui consiste à étudier des lunes de ce système. Pourquoi s'arrêter à Jupiter plutôt que Saturne, plutôt que Uranus, Neptune? Enfin, est-ce qu'il y a un élément fondamental qui a, je dirais, structurer votre attention sur le monde de Jupiter, par exemple?
Alors, à titre personnel, non. Pour rien vous cacher, j'ai fait ma thèse sur Titan, satellite de Saturne, sur lequel il y a en effet beaucoup de données qui arrivent toujours avec la sonde Cassini. Et à ma connaissance, beaucoup de personnes, enfin on est tous autant intéressés par l'ensemble des lunes, en fait, on va dire les spécialistes des lunes de glace, qu'on regarde Europe, Ganymède, Callisto, Titan, Encelade, elles ont toutes quelque chose à nous dire. Il y aurait 3 missions par an, on pourrait se payer le luxe de dire « je préfère aller là que là ». Avec une mission tous les 20 ans, au mieux, on est plutôt dans la logique. De toute façon, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y en a une qui parte. Et dans tous les cas, elles sont toutes extrêmement passionnantes, vu qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Pour aller plus dans le détail, il y a eu, Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est vrai, on est en train de travailler sur un projet de mission retour vers Jupiter. Bon, il y a 2 ans, cette mission était en compétition encore avec une autre qui était vers un retour sur Titan, autant du côté européen que du côté américain. Et les arguments qui ont prévalu pour décider laquelle des deux allait continuer en phase d'étude vers une réelle mission potentielle plus tard, c'est pas du tout des arguments scientifiques. Ce sont des arguments ingénierie, technique, risque, coût, etc. Mais pas du tout la science. La science a été jugée de façon totalement équivalente dans les deux contextes. Et je pourrais vous faire la même réponse pour Uranus et Neptune, où tout reste à faire. Donc, on n'a pas... Enfin, je parle en mon nom, hein. je connais pas toute la communauté, mais des gens avec que je côtoie qui étaient sur l'une ou l'autre des missions, en fait, de toute façon, bon, il y en a une qui a passé la phase de sélection, pas l'autre. De toute façon, tout le monde est revenu sur celle qui va faire Jupiter, parce que les lunes sont passionnantes. C'est parfois un peu conflictuel, mais c'est pas trop sur un contexte scientifique que ça se passe.
Alors, avant de parler de futures missions, j'aimerais m'arrêter sur ce qui existe en ce moment, puisque en ce moment, vous continuez à recevoir des données des sondes d'exploration autour de Saturne. Vous avez une masse d'informations gigantesques autour de Jupiter. On est loin d'avoir tout dépouillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que, je dirais, en ce moment, on continue d'apprendre des choses sur ces systèmes?
Oui, la réponse est simple, c'est oui, on continue d'apprendre. Je mettrai un petit bémol sur votre remarque par rapport à Jupiter. On a eu la sonde Galileo a apporté énormément de données, c'est vrai, mais énormément moins que ce qu'on espérait, puisque... En fait, dans une mission spatiale comme ça, on a un élément clé, c'est le renvoi des données vers la Terre, qui se trouve loin. Donc il faut une antenne. Et malheureusement, sur Galileo, l'antenne principale est tombée en panne dès le début de la mission. Donc en fait, il a fallu utiliser l'antenne secondaire, qui a renvoyé beaucoup de choses, mais finalement pas tant de données que ça. Et aujourd'hui, on a quand même, maintenant ça fait 10 ans, enfin pas tout à fait 10 ans, quelques 7-8 ans que la mission est terminée, et on n'a pas épuisé, bien sûr, on peut continuer d'interpréter les données, etc., mais on est bloqué. On est quand même avec des images d'une résolution modeste, on en a tiré clairement la substantifique moelle, on peut aller dans le détail, mais le gros du travail est fait, et il est largement temps d'y retourner. Maintenant qu'on a traité les données, qu'on a les bonnes questions... qui se sont posées par rapport à ce qu'on a vu, il est temps d'y retourner. Saturne est dans un contexte différent, en effet, puisque la mission Cassini est partie il y a déjà quelques années, elle est arrivée il y a plusieurs années, normalement ça fait déjà 3 ans qu'elle aurait dû s'arrêter, et elle est maintenant étendue jusqu'en 2017. On est sur une mission étendue de façon extrêmement large. On a parlé dans notre jargon à un moment de la mission XXL, pour bien situer les choses. Et c'est vrai que là, il y a énormément de données qui arrivent en permanence sur dès qu'il y a un survol de lune, etc. Et c'est sûr que là, il y a énormément de travail qui continue, parce que on va avoir je ne sais plus combien de dizaines de fly-by, de survols de Titan, au final. Chacun d'entre eux, on y revient à chaque fois, parce qu'on découvre les mouvements des nuages, on va passer sur un changement de saison, on va voir tout ça. Et c'est sûr que là, il y a un travail énorme, déjà en amont pour préparer ce qui va venir, mais aussi en aval, parce qu'avec tout ce qu'il y a déjà, il y a de quoi occuper beaucoup, beaucoup de chercheurs pour un bon moment.
Alors, on a souvent dit, hein, je crois que le premier qui parlait de ça, je crois que c'est André Braille qui disait, pour les planètes, tous parents, tous différents. Quand vous regardez, c'était pour je dirais, paraphraser, je dirais, la foule humaine étudiée depuis de nombreuses années. Hein, est-ce qu'en regardant les planètes et leurs satellites de glace, pour rester à Jupiter et Saturne, vous dites, aussi tous parents, tous différents, ou aujourd'hui, je dirais qu'il y a une filiation évidente?
Je m'excuse, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par filiation, dans le cas présent.
Est-ce qu'on peut, je dirais, les mettre toutes dans le même sac, alors? C'est-à-dire, est-ce que les processus qui ont été découverts sont des processus communs entre les deux planètes?
Donc oui, parce que C'est encore difficile de répondre à ça. Pour l'instant, on peut, si on se met au premier ordre, on va dire, on peut dire oui, tous par an, dans le sens où le système de Jupiter, comme le système de Saturne, fonctionne sur des bases très très similaires. On a une super planète géante, qui est donc principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, et puis on a un noyau au milieu, et puis autour de ça, on a un cortège de lunes extrêmement complexe, mais qui a des caractéristiques très très similaires, au sens un mélange de glace et de roche. Avec Titan un peu à part, puisque c'est la seule qui a une atmosphère. Les deux planètes géantes ont un champ magnétique extrêmement complexe, extrêmement intense aussi. Les lunes baignent dans ce champ magnétique. Bref, il y a beaucoup de choses qui disent, bah oui, c'est deux microsystèmes solaires et on peut les mettre, en effet, on peut dire que c'est la même chose. On a aussi aujourd'hui un niveau supérieur qui est qu'on sait aussi pertinemment que Uranus et Neptune ne sont pas comme ça. Le système d'Uranus et le système de Neptune, c'est pas les mêmes types de planètes, c'est pas le même fonctionnement au niveau du cortège de Lune, mais bon, il faut envoyer des missions pour voir en détail, mais on sait déjà que les planètes sont différentes, on va plus parler de parents là. D'ailleurs, avec l'avènement des exoplanètes, c'est un débat qui est revenu sur cette notion de planète intermédiaire entre les planètes telluriques, les planètes géantes, on a Uranus et Neptune. Après, dans le détail, donc on va passer un ordre au-dessus, oui, on est sur tous différents. Parce que l'environnement jovien, et à commencer par son champ magnétique, n'a aucun rapport avec l'environnement saturnien. Donc la façon dont les lunes interagissent entre elles en tant que système, la façon dont elles sont protégées du vent solaire, de toutes ces choses-là, c'est une dynamique, les fameuses forces de Laplace, les forces de marée qui vont agir sur les lunes, est complètement différente dans le contexte jovien et dans le contexte saturnien. Sur Saturne, vous avez Titan qui est à part avec son atmosphère. Sur Jupiter, vous avez ces quatre lunes, les fameuses lunes de Galilée, qui sont un cortège extrêmement complexe, en fait, qui est un système propre avec des interactions extrêmement difficiles à cerner, tant dans les champs magnétiques que dans les forces de marée, que dans l'évolution globale du système. Et on est on va pas aller explorer ces deux mondes avec le même engin spatial. Si je devais le simplifier, c'est comme ça que je le dirais.
Donc pour bien vous comprendre, il y a deux planètes géantes qui, ont été formées dans un même contexte planétaire, mais après, il y a des évolutions spécifiques en fonction des distances, des masses, et chaque planète a son environnement, en quelque sorte.
Oui, les deux systèmes sont comparables, de sous-systèmes, je veux dire. C'est un système de planètes géantes avec des lunes, mais donc, au premier ordre, ça se ressemble. Dès qu'on rentre dans la dynamique du système, ça n'a pas grand-chose à voir. Pour le faire simple. Mais c'est là que je dis, ça peut se résumer sur, si on va sur Saturne, on ne va pas prendre le même engin spatial que si on va sur Jupiter, parce qu'on ne va pas regarder les mêmes choses.
Avant d'arriver à Jupiter, vous avez travaillé sur Titan. Aujourd'hui, vous continuez à suivre les nouvelles de Titan, comme on regarde, la météo d'une planète extérieure?
Oui, bien sûr, puisque... Alors, je suis, mais je ne travaille pas dessus, parce que j'ai pas le temps en ce moment. Mais dans mon laboratoire, beaucoup de gens travaillent, sont impliqués en fait dans le traitement des données de la caméra infrarouge pour les observations de Titan. Donc toutes les nouvelles images qui arrivent dès qu'il y a un survol de Titan, elles arrivent dans le laboratoire. Il est bien évident que je peux difficilement me voiler les yeux et puis aller regarder ailleurs. Donc je suis d'assez près ce qui se passe sur Titan et j'essaye de suivre dès que j'ai un peu de temps un peu ce qu'il trouve, en particulier sur les nuages et les informations sur la surface. Puisqu'un des gros débats, c'est de caractériser la surface. Bon, maintenant, il y a plein de choses sur l'évolution des lacs, justement avec les saisons qui sont en train d'être regardées. Une partie de ce travail se fait à Nantes. Donc oui, j'essaye de suivre du mieux que je peux parce que ça m'intéresse quand même.